avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Amen. Alors, quelques mots de présentation, puisque c'est un des maîtres mots de ce jour, c'est de connecter. Donc, pour connecter, il faut pouvoir se connaître personnellement sur le plan humain, etc. Voilà, je suis très honoré d'être avec vous. Je mesure tout le potentiel qu'il y a au milieu de vous, le chemin de chacun, un chemin particulier, original, singulier, dans lequel Dieu a mis sa main. Et j'aimerais bien, même si le temps nous sera un peu compté, en connaître un peu plus sur chacun de vos parcours et tout ce que Dieu a mis dans vos cœurs à chacun. Donc je viens là comme un ami, je viens comme un peu un visiteur, mais quand même impliqué dans cette région lyonnaise de différentes façons. Je m'appelle Jean-Marc Potenti, j'ai 66 ans, bientôt 67, marié avec Daniel depuis aussi 46 ans. Nous avons 6 enfants, 12 petits-enfants pour l'instant. Voilà, c'est peut-être notre plus grand trésor, je ne dirais pas notre plus grande réussite parce que ce serait un peu prétentieux. Nous sommes reconnaissants de la grâce de Dieu qui a accompagné notre famille tout au long de notre parcours et qui fait notre joie et vraiment notre satisfaction. Nous sommes pasteurs en ce moment à Toulouse, dans une des églises de Toulouse, après avoir été pasteur à Auch pendant plus de 30 ans. J'ai remis la direction de l'église d'Auch entre les mains d'une équipe, de responsables maintenant, de direction. On reparlera du travail en équipe certainement. Et parallèlement à cette responsabilité, j'avais aussi pris la responsabilité de l'église de Montauban pendant une quinzaine d'années. Et depuis maintenant plus de 10 ans, nous sommes responsables de l'église de Toulouse. Mais au-delà de cela, nous sommes engagés dans ce réseau Nouvelle Connexion qui a connu plusieurs étapes, plusieurs évolutions dans son histoire. Comme Alain l'a rappelé, ce réseau est né il y a une quarantaine d'années, ou plutôt 35 ans, dans la région du Sud-Ouest. Et bon, aujourd'hui, nous appelons le réseau Nouvelle Connexion pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est un réseau apostolique qui rassemble des églises, des œuvres et des ministères dans la vision du royaume de Dieu. L'idée, c'est, enfin, l'ambition, la prière, c'est de proclamer l'évangile du royaume, mais aussi de l'incarner de différentes façons. Donc, je suis au sein de ce réseau le responsable apostolique avec un conseil et différentes équipes qui aussi accompagnent les églises et les œuvres. Et c'est vraiment un privilège d'apprendre à travailler ensemble dans cette vision du royaume de Dieu. Parallèlement à cela, nous sommes aussi impliqués dans le monde, on va dire, institutionnel. J'ai été pendant des années membre du conseil et du bureau de la Fédération protestante de France. Tout ça pour dire que ce n'est pas incompatible d'être dans un réseau apostolique et d'être aussi dans la Fédération protestante de France. Et là où j'ai eu des responsabilités, notamment la présidence de la coordination des églises évangéliques de la Fédération protestante, et dans lequel nous avons pu aussi faire entendre la voix des charismatiques comme nous tous ici, et ainsi exister au sein de cette institution. En même temps, nous avons aussi été membres fondateurs en tant qu'union d'église, membre fondateur du CNEF depuis le début des années 2000. Et j'ai été aussi là membre pendant des années du comité représentatif du CNEF. Et aujourd'hui, je n'en suis plus membre puisque j'ai été jusqu'au bout des mandats autorisés, 3 fois 3 ans. Et là, j'étant là, je me suis laissé la place à d'autres. Mais je suis membre du comité théologique du CNEF actuellement, pour représenter la sensibilité charismatique et au sein de cet ensemble d'églises. Voilà, tout ça pour dire que dans ces milieux-là, nous nous réjouissons de pouvoir établir des liens et faire exister la tendance, la mouvance charismatique qui avait un peu, pour différentes raisons, qui était un peu restée en marge et qui n'existait pas vraiment dans l'ensemble des églises. Des églises protestantes et évangéliques, et on se réjouit de ce qu'aujourd'hui, eh bien, nous étions il y a quelques jours avec Rémi aux 24 heures des unions des églises du CNEF, et là le thème, figurez-vous, c'était celui des ministères. C'est quand même incroyable de voir que dans tous les milieux évangéliques, des plus conservateurs, c'est pas péjoratif, hein, simplement des plus classiques, au plus je sais pas quoi, mettez ce que vous voulez après, ça pourrait paraître prétentieux. Alors voilà, au plus récent, on va dire nouveau venu, cette réflexion sur les ministères qui nous rassemble aujourd'hui, entre autres, existe, et parfois elle est à son début, mais n'empêche que c'est très encourageant de pouvoir parler de cette réalité, de ce que nous croyons, de la dimension apostolique et de la diversité des ministères dans ces milieux où, il y a quelques années, c'était tabou. C'était un petit peu, on ne connaissait pas, et en tout cas, c'était un peu suspect. Aujourd'hui, ça devient un sujet d'actualité, et vraiment, on se réjouit de cela. Donc, l'idée, c'est eh bien, d'avancer dans cette vision que nous portons, dans laquelle nous entrons, pour certains d'entre nous, de cette diversité des ministères, de ces réseaux apostoliques qui ont pour vocation, pour mission, de manifester une plus grande dimension du royaume de Dieu. Et dans cet esprit-là, notre réseau qui existe, alors c'est comme cela que nous sommes connus et reconnus, c'est pas une façon de se vanter ou de se mettre en avant, mais nous sommes la plus ancienne équipe apostolique de France. C'est dire qu'on est vieux, hein. Et qu'on a de l'âge, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs du tout. Ça veut dire simplement que Dieu nous a fait la grâce d'exister depuis longtemps et de traverser les différentes étapes qu'une équipe et qu'un réseau peut vivre, de les surmonter, de se multiplier. Mais aussi, surtout, notre désir, c'est de voir les réseaux apostoliques se multiplier dans notre pays, en France, mais aussi dans l'Europe francophone et dans les nations. Je reviens d'Afrique, je serai en Afrique bientôt. Pascal aussi, il part dans quelques heures, je crois, dans quelques jours. Voilà, et nous travaillons dans cette dimension des réseaux apostoliques sur le plan de la francophonie avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Et nous rassemblons pour cela une plateforme qui s'appelle l'Interréseau apostolique et qui porte le nom finalement de Vers un mouvement apostolique que vous avez vu sur l'invitation, dans lequel appartient l'équipe apostolique d'Antioche, avec, représentée par Pascal, mais aussi l'équipe de Newground, représentée par Rémi ici, et ensemble avec d'autres réseaux, parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui émergent dans notre pays, et c'est vraiment encourageant. On se rassemble, on prie, on travaille, on apprend à se connaître et à avancer dans une dimension apostolique commune pour pouvoir avoir justement un plus grand impact spirituel dans notre nation. Et je peut-être le préciser, aussi président et fondateur de l'Institut ID2R dont notre ami vient de parler. Et ça remonte aussi à quelques années. Voilà quelques mots comme ça, juste pour connecter. Et je voudrais revenir à ce texte que nous avons lu et que je voudrais poser comme un fondement. Je ne vais évidemment pas entrer dans une étude, je ne vais pas vous enseigner, je ne vais pas entrer dans une exégèse ou une étude biblique de ce texte en profondeur parce que le temps nous manquerait. Et puis le but est vraiment de poser quelques lignes directrices pour notre réflexion en vue d'échanges, en vue de connecter ensemble et peut-être de mettre sur la table toutes les questions qui peuvent se poser. En effet, on est là tous pour apprendre. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour partager notre parcours qui est certes un peu long, mais pourtant qui a besoin encore d'être perfectionné par la grâce de Dieu. On est loin, loin, loin d'être arrivé. On marche tous ensemble. Nous avons reçu de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul, la grâce et l'apostolat en vue d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. J'aime ce texte, il me parle depuis des années, j'en parle un peu partout, donc certains qui me suivent m'ont déjà entendu évoquer ce texte-là, mais il reste une source d'inspiration. Nous avons reçu la grâce. Je ne vais pas entrer dans ce détail, même si ça mériterait un long développement, parce que nos églises évangéliques et charismatiques, parfois, passent à côté de la grâce pour créer de nouveaux légalismes et de nouvelles pressions qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Je crois qu'il n'y a pas de message plus révolutionnaire ou plutôt réformateur et transformateur que celui de la grâce, la révélation du caractère de Dieu qui vient détruire tout ce que le légalisme, tout ce que les esprits religieux par émanant de l'enfer. Je vais un peu vite, excusez-moi, je fais des raccourcis, mais on n'a pas trop de temps, donc ça me permet d'être un peu émanant de l'enfer finalement, c'est-à-dire tout ce qui cherche à détruire l'image de Dieu, le plan de Dieu et l'humanité, et qui cherche à ainsi tout ce que ces esprits religieux cherchent à amener dans le monde évangélique, dans le monde protestant, dans le monde des églises, comme dans le monde en général, pour finalement éloigner les hommes de Dieu et les priver de la liberté qu'il y a dans la grâce de Dieu. Ça, c'est un sujet en soi, mais Paul commence par ça. Donc, je suis l'apôtre Paul. Hein, nous avons reçu la grâce. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça ? Nous avons... Et j'ai envie d'ajouter, j'ai besoin de continuer et à toujours recevoir toujours plus la grâce de Dieu avec tout ce qu'elle a de transformateur, de libérateur. Et puis, en amenant l'oxygène du ciel. Et Paul ajoute, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Alors là, pour les puristes, des fois on me dit, oui, non, mais dans le texte, il est dit la grâce de l'apostolat. Non, j'ai encore vérifié dans le texte grec ce matin avant de venir, je parle sous le contrôle d'un professeur de théologie. Ici, la Bible dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. La grâce, c'est le message, c'est la révélation de Dieu dont nous sommes porteurs, qui fonde notre mission. Mais l'apostolat, c'est notre mandat. L'apostolat, c'est être envoyé de Dieu dans une dimension large. Et j'en parlerai peut-être un peu plus cet après-midi. Mais c'est vraiment la dimension dans laquelle nous sommes. Ça ne concerne pas un homme ou une organisation, ça concerne la mission de l'Église. Ici, le mot apostolat est employé sur un plan collectif. Et on a besoin de découvrir cette dimension collective de l'apostolat, même si, évidemment, il y a des ministères individuels, apostoliques comme prophétiques, etc. Mais j'y reviendrai un peu plus en détail dans l'après-midi, parce que c'est une dimension importante de notre réflexion. Cet apostolat, c'est le mandat que nous avons reçu ensemble, mais qui nous donne une autorité, et une autorité sur le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je le redirai, parce que avec l'âge, je me répète un peu, il faudra me supporter, mais je crois que la faiblesse de l'Église n'est pas seulement un manque de prière, un manque de sainteté, un manque de ceci, un manque de passion, un manque de zèle. La faiblesse de l'Église, c'est la carence apostolique, c'est-à-dire l'absence de conscience et de révélation de notre dimension apostolique commune, qui passe par toutes sortes de critères dont on parlera, mais qui nous donne autorité face aux ténèbres. À qui est-ce que Jésus dit « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle? Qui est-ce qui l'établit comme une autorité face au monde des ténèbres pour enfoncer les frontières et pour y résister, non seulement y résister, mais pour manifester le royaume de Dieu sur la terre? Eh bien, c'est à Pierre, représentant des apôtres et représentant de l'Église. Je crois qu'il y a beaucoup encore à découvrir cette dimension apostolique, même si on en parle depuis une trentaine d'années. Je pense qu'on est loin d'avoir encore épuisé tout ce qui peut être dit et peut être fait. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Et ce sur quoi j'aimerais m'arrêter pendant quelques minutes, c'est sur ce qui suit. La grâce n'est pas un but en soi. Les ministères et l'apostolat ne sont pas un but en soi non plus. Ce sont des moyens. La finalité, c'est le royaume de Dieu. La finalité, c'est d'amener à l'obéissance, susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Et là, le mot n'est pas dans la parole, dans le texte, mais on a tout ce qu'on entend par vision du royaume de Dieu. Amener les nations, non pas amener les individus seulement. Des fois, dans le monde évangélique, notre message et notre focus est sur l'individu. Et on parle très volontiers du salut des âmes. Et évidemment que les personnes et les symbolisés par les âmes ont une importance sans prix aux yeux de Dieu, puisque c'est pour chacun de nous qu'il a donné son Fils. Néanmoins, le fait de limiter le projet de Dieu à la dimension individuelle nous prive de voir l'étendue, le champ de mission qui est devant nous, qui ne sont pas les individus. Si l'individu est au centre de l'attention de Dieu et de son amour, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, mais il a tant aimé le monde. Si l'individu est au centre de l'attention de Dieu et de son affection, on a chanté ce matin sa proximité, on a besoin de cela et de toujours grandir cette dimension-là, la vision de Dieu, le projet de Dieu, son royaume s'étend à toute la création. Il s'étend à toutes les nations. Ces nations sont composées de secteurs, nous on appelle ça des sphères, hein, dans l'idée de Zère. J'en parlais pendant votre absence à tous les deux. Là, voilà. Donc je présente et je rappelle cette vision d'idée de Zère qui était de diffuser la vision du royaume de Dieu dans toutes les sphères de la société. Quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ne dit pas « Allez évangéliser », il ne dit pas « Allez gagner des âmes ». Tout cela sont des moyens, mais la finalité, c'est que les nations soient touchées et transformées par le message de l'Évangile. Et la vision du royaume de Dieu nous oblige à élargir notre vision et notre fonctionnement. Au-delà de la focalisation sur les individus, sur la dimension pastorale, dans nos églises comme dans notre message, pour que notre horizon s'ouvre quand nous gagnons des personnes, quand nous évangélisons, quand nous enseignons, notre perspective, c'est que les villes, les territoires, les nations dans lesquelles nous sommes engagés soient transformées par la présence de Dieu. Et je crois qu'il faut une révélation et peut-être même une révolution dans nos consciences pour qu'on passe de la vision du salut individuel à la vision de la transformation de nos sociétés. On me dirait, mais bon, Jésus, oui, non, Jésus n'a jamais dit que l'individu était au centre. Mais nous, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons reçu, c'est ce dans quoi nous travaillons. Et ce qui fait que, bien sûr, on travaille dur, mais on n'est pas nécessairement dans l'ampleur du projet de Dieu. Ici, il est dit « susciter l'obéissance de la foi dans toutes les nations ». Et s'il y a une chose qui caractérise cette vision du royaume de Dieu quand on la reçoit, quand on commence à la recevoir, parce qu'on a besoin encore de la recevoir toujours plus, c'est que ça donne une espérance. Une espérance pour les villes, les territoires, les régions et les nations dans lesquelles nous sommes. Parce que le projet de Dieu est un projet d'espérance. Vous le savez, ça. Hein ? Nous n'allons pas vers la fin du monde. Nous n'allons pas vers l'enlèvement de l'Église. Nous n'allons pas vers la grande tribulation. On ne va pas vers tout ça. On va vers le renouvellement de toutes choses. Alors, peut-être je reviens un peu en arrière. Je ramène la bande un peu. Bien sûr qu'il y aura des temps difficiles. Bien sûr que ce temps dans lequel nous sommes va arriver à sa fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. La Bible parle de la fin du siècle présent. Le projet de Dieu, c'est un projet éternel. Nous n'irons pas au ciel parce que le ciel va descendre sur la terre. Et c'est du ciel que la nouvelle Jérusalem va descendre et qui va transformer la terre sur laquelle nous sommes pour en extirper le mal, pour en extirper la domination du diable et pour amener la vie et la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Notre avenir, c'est une éternité sur une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux où la justice habitera et où les nations marcheront à sa lumière. Les nations ne sont pas un accident de l'histoire, ce n'est pas l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, comme ça, qu'il faut bien subir. Non, non, c'est le projet de Dieu depuis la création, depuis Genèse avec Adam. Remplissez la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population, l'humanité devait se développer, mais selon Dieu, pour sa gloire. Le péché est venu et a amené dans les nations tout ce que nous connaissons de troubles, de combats, de tensions, et nous en faisons aujourd'hui l'amère expérience. Mais Jésus est venu pour que ces nations deviennent disciples. Il est venu enlever et ôter l'autorité, le gouvernement des mains de l'ennemi pour que le règne de Dieu vienne. Et depuis la croix et la résurrection et l'ascension, le règne de Dieu est venu avec une dimension particulière pour qu'aujourd'hui l'Église entre dans les nations et amène le royaume de Dieu. Notre vision de l'Église n'est pas simplement une vision d'une Église souffrante, même si la souffrance fait partie du temps présent. La souffrance fait partie, l'opposition fait partie du temps présent. Mais ce n'est pas notre seul horizon, ce n'est pas notre univers seulement. Nous savons que nous sommes appelés à la royauté et à la souffrance, dit l'apôtre Jean dans les premiers versets de l'Apocalypse, ou plutôt de la révélation de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la royauté et à la souffrance. La souffrance fait partie du temps présent, mais elle ne doit pas être le seul horizon dans lequel nous vivons. Nous sommes appelés à la royauté. Et nous sommes associés au règne dans lequel est entré le Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est dans les temps de souffrance, dans les temps d'opposition, nous sommes appelés à être dans une position de gouvernement dans nos nations, d'influence, non pas de domination. Des fois, on me dit, ouais, donc tu veux que l'Église prenne le pouvoir. Mais pas du tout, enfin, quand même. L'enseignement de Jésus est tellement clair. Il est venu pour servir. Son autorité, elle est dans l'amour, elle est dans le don de lui-même, dans le service. Et l'autorité de l'Église, elle n'est pas dans la domination, elle n'est pas dans la prise de pouvoir, de contrôle, de quoi que ce soit. L'autorité de l'Église et son gouvernement, elle est dans sa dimension de service, qui transforme les lieux, qui transforme les secteurs de la vie professionnelle, les secteurs de la société, qui amène la justice là où règne la corruption, qui amène la paix là où règne la compétition, la discorde, qui amène l'égalité et la vérité là où règne les ténèbres et les mensonges, qui amène la vie, qui amène le ciel partout où nous sommes. C'est ça notre vocation. C'est pourquoi notre vision, quand on parle du royaume de Dieu, c'est pas simplement que des personnes soient sauvées, c'est que les personnes qui sont sauvées rayonnent de la présence de Dieu dans tous les secteurs de la société dans lesquels ils sont pour y amener la présence de Dieu. Ça change tout. Nous sommes en train de mettre l'accent dans notre réseau sur la nécessité pour les professionnels, quels qu'ils soient, quel que soit le secteur dans lequel ils sont, envisagent leur activité professionnelle non plus seulement comme un gagne-pain, ou comme étant l'expression de leur je ne sais quoi, de leur responsabilité seulement comme ça, ou de leur talent, mais au-delà de ça, pour que ce soit l'expression de leur engagement dans le royaume, et si vous le permettez, l'expression de leur ministère. Nous croyons au ministère de gouvernement, on en parlera cet après-midi, apôtres, prophètes, etc., je ne fais pas la liste, mais nous croyons au ministère du corps. Ces ministères sont donnés pour le corps, afin que le corps exerce son service. Il a donné les uns comme la liste, vous la connaissez, pour l'édification du corps en vue de l'œuvre du ministère. Et où il se produit l'œuvre du ministère, où il s'exerce? Pas le dimanche matin seulement, pendant l'adoration seulement, même si c'est une partie essentielle. Et pendant qu'on adore, comme ce matin, et merci à l'équipe, eh bien, il se passe des choses dans le monde invisible et dans le monde visible aussi. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de cloisonnement. Mais néanmoins, ce n'est pas seulement dans ces moments-là que l'Église exerce son ministère. C'est aussi quand tous les membres de l'Église se répandent dans la société. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église rassemblée, mais aussi l'Église dispersée. Et partout où les croyants sont placés, ils y sont dans une perspective de gouvernement, d'influence, pour amener la présence de Dieu. Si on prenait conscience de tout tout le potentiel qui existe dans l'Église, par tous les membres, de par leur présence dans tous les cercles de la société, on aurait une vision et un encouragement extraordinaire. Mais parfois, l'ennemi veut nous voiler ça. La Bible dit, nous brillons dans le monde comme des flambeaux. Vous croyez ça? Ah oui, des fois, ça ne brille pas beaucoup, je sais. C'est pas brillant, des fois. On a l'impression, en tout cas. Un jour, je me trouvais dans un restaurant. Enfin, j'attendais quelqu'un. Pas pour manger, mais peu importe, c'était un restaurant. Et j'étais là avec, j'étais centré sur le rendez-vous que j'attendais. Et puis, c'était un peu long, mais voilà, je prenais patience. La patience n'étant pas mon fort, même si ça devrait être l'apanage des apôtres, parfois, on en manque un peu. Et là, je vois un homme, le responsable du restaurant, qui passe son temps à se laver les mains, à mettre les mains sous l'eau. Je n'ai pas compris. Celui-là, il est maniaque de la. C'était avant le confinement, hein, avant tout ça. Donc, maniaque de l'aspect sanitaire. Et puis d'un coup, il vient parler avec moi. J'avais pas envie de parler, franchement, ce jour-là. J'attendais mon rendez-vous, point. Il dit bon, voilà, il me raconte sa vie. Cet homme, et je le savais, est un magnétiseur extrêmement connu dans la région, dans notre région, vers qui beaucoup de gens venaient pour recevoir des pseudo-guérisons. Et je le savais, mais je n'étais pas dans une forme spirituelle qui me conduisait à vouloir lui parler de Jésus. Ben oui, je suis désolé, parfois je ne suis pas très spirituel, c'est comme ça. Et on discute, j'essaie de parler de tout et de rien. Vous voyez, ce n'est pas très spirituel, hein, je vous avoue tous, on parle de connexion, je vous dis la vérité dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et à un moment donné, il me dit la question fatidique, « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Eh mince. C'était la question que j'aurais voulu éviter, mais je n'avais pas envie d'entrer dans des discussions. Alors je lui explique, je suis pasteur. Et tout d'un coup, il me dit, ah, mais c'est ça. Oh là là, c'est pour ça que j'ai les mains qui brûlent. Vous avez vu, j'étais passé mon temps à me rafraîchir les mains, parce que c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et s'il y en avait un qui ne sentait pas très fort la présence de Dieu, c'était moi. Mais lui, il a senti. Même dans les moments où on est les plus insignifiants à nos yeux, nous brillons comme des flambeaux, et le peuple de Dieu brille comme des flambeaux, partout où il se trouve. Mais il faut que l'Église en prenne conscience de l'appel de chacun, forme ces personnes, pas dans leur technique professionnelle, mais dans leur mission, dans leur vocation, que le regard sur la vie professionnelle change, non plus comme un moyen de gagner sa vie, mais comme une façon de servir Dieu, découvrir ses dons, ses talents, et être dans l'espérance que le lieu dans lequel il se trouve soit transformé par la présence de Dieu. Bien sûr, il y a des combats, il y a des tensions, c'est pas facile, on ne va pas au boulot le lundi matin toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais si on comprend la mission qui est devant nous, peut-être que ça peut changer aussi la relation au travail. Et le lundi devient un jour aussi merveilleux que le dimanche, parce qu'il devient un jour de service et de travail pour le royaume de Dieu. Le champ de mission, c'est le monde dans lequel nous sommes. Ce sont les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Jésus, et je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. J'ai encore 15 minutes. Ouh, mais c'est royal. Donc je vais quand même regarder. Oui, 15 minutes. Cette dimension du royaume de Dieu était résumée par Pierre quand il parle du ministère de Jésus sur la terre. il est chez Corneille, et il dit dans Actes 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. » Et nous, nous retenons de ce texte toute la dimension miraculeuse, surnaturelle, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Évidemment, la guérison physique, la guérison spirituelle, la délivrance, tout ça, c'est notre fer de lance, c'est ce qui nous anime. Mais cette petite expression-là, juste avant, faisant le bien. Vous dites, oui, ben faisant le bien, c'est en guérissant les malades, mais ça existe même indépendamment du fait de guérir les malades, ce qu'il faut aussi faire. Mais faisant le bien, ça résume cette dimension du royaume qui s'exprimait par le ministère de Jésus. Et c'est une dimension sur laquelle on a besoin de revenir. Faire le bien. On dirait, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Amen. Mais les œuvres, et plutôt la foi, entraînent aussi les œuvres. Elle entraîne des comportements, elle entraîne des attitudes, elle entraîne des initiatives. Je me suis réjoui des œuvres qui sont présentes ici, qui incarnent la grâce de Dieu, qui font du bien. C'est notre mission. Et c'est peut-être une façon plus simple de résumer la vision du royaume de Dieu. Faire le bien, faire du bien. Un jour, le prophète Jérémie dit de la part de Dieu à son peuple qui est en exil à Babylone, rechercher le bien. Le mot, c'est le shalom, mais on peut comprendre que c'est très voisin. Rechercher la paix, rechercher le bien, rechercher le shalom de la ville dans laquelle je vous ai déporté. Parole de Dieu à une communauté qui n'attendait qu'une chose, c'est d'être libérée de la servitude pour retourner dans sa terre natale, dans son héritage. Comme les chrétiens, souvent, quand ils sont là dans l'attente du retour de Jésus comme une fuite, pour dire, enfin, quand est-ce qu'il viendra nous chercher pour fuir le monde dans lequel on est. Il y avait toute une partie du peuple qui était comme ça, et qui était même encouragée par ce que Dieu appellera des faux prophètes. Vous lirez ça dans Jérémie 28, 29. Des faux prophètes qui venaient, qui disaient, plus que deux ans, et puis après on rentre à Jérusalem. Et Dieu envoie Jérémie, encore une fois, avec un message qui va à contre-courant. Et le message du royaume va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues parmi l'Église. Il va secouer beaucoup d'idées reçues qui finalement nous enferment et nous privent de cette dimension de plénitude dans laquelle Dieu veut nous conduire. Et Dieu dit à travers Jérémie, non. Plantez des arbres, mangez-en le fruit. Construisez des maisons, habitez-les. Mariez-vous, mariez vos enfants. Recherchez le bien. Quelque part, on entend, jouissez de la vie que je vous donne ici. Même si c'est un lieu de déportation, même si c'est un lieu marqué par les ténèbres. Pas pour vous-même, évidemment, mais aussi pour bénir le monde, pour bénir la cité, pour bénir sur le plan de... Je crois que quand il y a des naissances, c'est une bénédiction pour le monde et pour l'environnement, pour la communauté sociale. Je crois que quand il y a un succès sur le plan économique, une entreprise, quand il y a des œuvres de grâce, de charité qui se développent, ça fait du bien. C'est pour le bien de tous. Quand on participe à la vie économique, en plantant des jardins, en mangeant le fruit, par le commerce, par l'agriculture, et on peut allonger la liste, on cherche le bien. On cherche le bien. Et Jérémie continue en disant, car votre paix dépendra de la sienne, c'est-à-dire de la paix de cette ville. La vision du royaume de Dieu, c'est ça, c'est penser qu'on est là aujourd'hui avec une vocation, c'est de faire le bien. Guérir ceux qui sont sous l'oppression du diable aussi, mais faire le bien. À travers nos engagements, à travers nos attitudes, nos comportements, à travers tout ce que Dieu va mettre dans nos cœurs comme initiative. Je m'attends à des initiatives créatives, inédites, pour répondre au monde, aux besoins du monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une détresse sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Une détresse qui est d'une ampleur peut-être rarement connue. On n'a jamais eu autant de facteurs de risque et de risques réels qu'aujourd'hui, cumulés ensemble. Depuis le confinement, on est sorti de tout cela avec une succession de crises et de menaces qui ne font que s'accentuer. On ne sait pas du tout ce que demain va être. On sera peut-être, et je ne dis pas ça comme une prophétie, et je fais tout dans la prière et avec vous pour que ça n'arrive pas, mais on est à la veille peut-être d'une guerre mondiale. On le sait très bien. Et je ne dis pas ça pour effrayer, inquiéter ou pour jouer aux populistes. Non, c'est une réalité. C'est, c'est une possibilité, même si on va travailler, prier pour que ça n'arrive pas, évidemment. Mais n'empêche que les risques n'ont jamais été aussi importants. Eh bien, à ce temps-là, nous sommes là pour faire du bien, pour répondre aux besoins, aux attentes, au désespoir dans lequel notre monde peut se trouver. Et ça, c'est l'appel de l'Église. Ça nous sort de notre programme quotidien, du culte du dimanche matin, du pastorat, dans lequel parfois on... Oui, je vous dis, on sombre. Parce que les besoins sont tellement importants dans l'Église que des fois on est tellement absorbé qu'on sombre avec ceux que l'on essaie d'aider. Alors, je dis ça parce que j'ai une compassion pour les pasteurs incroyable. J'ai été pasteur, évidemment, mais avec une responsabilité apostolique qui me fait accompagner beaucoup de pasteurs. Et je trouve que... Allez, je vais le dire tel quel. Une des rues du diable, c'est d'absorber, d'accaparer l'attention des pasteurs dans les besoins internes de l'Église et de les décourager parfois parce que tout ne réussit pas dans l'accompagnement. On voit des divorces, on voit des tensions, on voit des difficultés et on s'abîme dans tout ce qu'on peut pour accompagner ces situations. Et il le faut. Mais notre horizon n'est pas que l'accompagnement individuel. Notre horizon, c'est aussi que ceux qui sont accompagnés puissent entrer dans leur mission et pas qu'on réponde seulement à leurs besoins, mais qu'ils puissent entrer dans leur appel, dans la société. Et des fois, si on change le focus en disant, bon, le but, ce n'est pas le bien-être pastoral, le but, c'est la guérison, la restauration, en vue de servir dans le monde, ça donne une dynamique qui fait qu'on sort des pièges dans lesquels l'ennemi voudrait nous enfermer. La vie en Rome de Dieu, je peux vous dire qu'elle change la perspective d'une église, elle change la perspective du ministère, parce qu'elle donne de l'oxygène et de l'espoir. On n'oublie pas l'Église, elle a toute sa place, mais elle reprend son sens. Le royaume ne viendra pas sans l'Église. Des fois, j'ai entendu des gens dire « Ah, moi c'est fini, j'ai assez donné dans l'Église, maintenant je sers dans le royaume. » C'est d'une... Je suis enregistré là, c'est un peu inquiétant, mais c'est une bêtise sans nom. Comment peut-on imaginer qu'il y ait un royaume sans l'Église ? L'Église est l'agent du royaume. Et donc, il faut que ça ne peut passer que par l'Église, même si Dieu agit au-delà de l'Église. Mais ça peut passer que par l'Église. Mais c'est vrai que parfois, l'Église sent un peu le renfermer. Parce qu'il manque la vision du royaume. Et du coup, ça sent un peu le moisi. Et on se fatigue. Et on s'use. Et ce qu'il faut, c'est que l'Église soit éclairée, dynamisée, oxygéné par la vision du royaume. Pas comme une fuite, mais comme une finalité. Comme une perspective qui donne du sens. Il n'y aura pas d'église, de royaume sans une réforme de l'église. Et il ne peut pas y avoir d'église sans une vision du royaume. Les deux ont une relation extrêmement liée et je crois que c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il le fait bien mieux que ce que je peux dire ici, je vais m'arrêter là parce que, ah non, j'ai encore 5 minutes, mais ça ne fait rien, je vais quand même m'arrêter là. Je crois que il y a une révélation qu'il faut encore recevoir de Dieu. On n'a pas tout compris de son plan, de son projet, et c'est bien qu'on soit là ce matin ensemble pour dire, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mes yeux, entraîne-moi dans la grandeur de ton plan, et que l'Église retrouve sa dignité aussi et sa mission, qui est d'être le gouvernement de Dieu sur la terre. Pas un gouvernement qui contrôle, qui détruit, qui oppresse, mais un gouvernement qui libère, qui sert et qui amène la présence de Dieu. Vous imaginez votre ville, votre région, votre pays éclairé par la lumière du royaume, parce que l'Église entre dans cette dimension de vivre cette vision par la grâce de Dieu, c'est pas l'apanage, c'est pas la propriété de qui que ce soit, c'est le mouvement de Dieu dans l'histoire. C'est ce vers quoi nous allons. Il n'y a rien de plus prophétique que le royaume. Il n'y a rien de plus avant-gardiste que le royaume vers lequel nous allons. Que Dieu nous transforme, nous secoue là où il le faut, qu'il nous rajeunisse, qu'il enlève nos rides, qu'il enlève nos... Il revient pour une église qui n'aura ni rides ni rien de semblable. Hein. Ça veut dire qu'elle n'aura pas vieilli, elle ne sera pas lassée, elle ne sera pas fatiguée, elle sera en pleine forme, même si elle passe par la difficulté. C'est pour une telle église que Jésus revient, afin de pouvoir établir son royaume pour l'éternité. Et en attendant, et quand je dis en attendant, ben ça peut être long encore. Allez, je vais encore me mouiller un peu. Je suis fatigué de cette... Bon, je ne sais pas si je veux dire ça, mais quand même un peu, cette espèce de frénésie sur le retour de Jésus. Évidemment que Jésus revient, que nous l'attendons, que nous prions, que nous l'espérons, mais que ce ne soit en aucun cas une façon de nous désengager et de ne pas entreprendre tout ce que nous devons entreprendre pour que le royaume de Dieu avance sur cette terre. Jésus viendra et l'établira pour l'éternité, évidemment. Nous n'amènerons pas le royaume de Dieu. Mais nous sommes là, et c'est la vision qui est sur votre programme, notre programme. Nous sommes là pour en vivre des manifestations toujours plus grandes, toujours plus grandes, toujours plus grandes, encore, encore, encore. Quand dans cette parabole, je terminerai vraiment par là, quand dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, les serviteurs viennent dire au maître, et si on arrachait cette ivraie pour que seul le beau grain... Et le maître qui dit, non, laissez-les croître. Laissez-les croître ensemble. Et c'est à la fin, à la moisson. Et la moisson, ce n'est pas le salut des âmes. La moisson, c'est la résurrection. À la moisson, alors, eh bien, le Seigneur fera, le maître fera son tri. Ça veut dire qu'il y a une croissance des deux. On est dans cette réalité. Il y a une croissance de l'ivraie, une croissance de la semence du diable, mais il y a aussi une croissance... du bon grain, croissance des fils du royaume. Et les deux vont croître ensemble. N'allons pas que vers la croissance des ténèbres. La nuit vient, mais le matin aussi. Il y a aussi une croissance du royaume de Dieu. Il ne faut pas que la nuit nous vole cette espérance. Sinon, on ne voit que la croissance du mal. Et la réflexe, c'est évidemment de se cacher, de se dire, oh là là, attendons que ça passe, et vivement, vivement que. Mais non. Moi, je me souviens, alors j'étais jeune et tout petit, et ça n'a plus cours trop aujourd'hui. Mais je me souviens d'avoir entendu des vieux chrétiens dire « Ah, vivement que Jésus revienne, plus ça va mal. » Non, c'était ça en fait. « Plus ça va mal et mieux c'est, puisque au moins Jésus revient. » J'ai entendu ça, moi, quand j'étais enfant, dans une certaine dénomination. Mais c'est coupable, c'est criminel d'entendre ça. Comment peut-on espérer que le mal grandisse sous prétexte que Jésus... Non. Jésus reviendra quand ce sera le temps. En attendant, il faut que le royaume grandisse aussi. Et notre vision, ce n'est pas que la croissance du mal, c'est aussi la croissance du royaume de Dieu. C'est un combat, parfois, voilà, mais c'est un combat. Et nous allons vers cela. Je m'attends à ce que des villes soient transformées, à ce que des pouvoirs, des gouvernements, des sphères économiques, d'enseignement, de droits, de médias, de culture, soient transformés par la présence de croyants. Qui ne vont pas imposer leur foi, qui ne vont pas imposer leur valeur, mais qui vont les vivre. Et qui vont ainsi être présentés, et qui vont ainsi présenter le royaume de Dieu pour la gloire de Dieu, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est notre seule espérance et notre ambition.